bien oui à Canal M, on aime l'été. J'espère que vous aussi, vous aimez l'été. Bonjour, bon mardi à vous tous, mardi 28 juin. Bienvenue à l'émission Aime l'été, le deuxième rendez-vous de ce nouveau magazine estival. Je m'appelle Chantal Lavoie. Devant nous, une heure de belles rencontres, d'activités à découvrir, ou pour certaines, à redécouvrir. Aime l'été, c'est notre festin du midi pour mieux croquer dans cette belle saison estivale. Et à notre table aujourd'hui, il sera question du nouvel insectarium de Montréal. Nous irons nous balader dans la grande roue du Vieux-Port. Nous ferons également la découverte d'un artiste contemporain très en vue en ce moment et dont les œuvres sont présentées ces jours-ci au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mais pour commencer, on va aller faire un petit tour du côté de la Beauce pour le festival Beauce Rock.
Je me souviens plus de ce qui s'est passé. Un matin, je me suis réveillé. Encore une fois, couché sur le plancher. Je suis magané, magané.
Nous écoutions la pièce « Magané » du groupe rock québécois Les Pistolets Roses, tirée de l'album « Ma Génération » sorti en 2003. Et ce groupe, qui est né à l'automne 2000, composé de Francis Bédard, Éric Fortier, qui avait sorti un autre album aussi en 2005, « Sans foi ni loi », un groupe qui avait quand même obtenu une nomination au Gala de la Disque en 2004 pour le groupe alternatif de l'année. Et depuis, il y a eu quand même deux autres albums, 2008 et 2017. Le 30 juillet prochain, ils seront du côté de Québec au Festival Country, avec un show spécial de chansons inédites et des chansons des Pistolets qui n'ont jamais été présentées en spectacle. Mais auparavant, ils seront aussi sur scène au Festival Beauce Rock ce samedi 2 juillet à 19h. Et pour en parler, j'accueille Éric Latulippe. Bonjour!
Bonjour, ma sœur. Ça
bon,
va bien?
Ben oui, ça va bien. J'espère que vous n'êtes pas magané comme nos pistolets roses.
Ah, avant le festival, on n'a pas le choix d'être pas magané parce qu'il y a pas mal d'ouvrages ici, je te dirais, ma sœur.
Ben, c'est ce que je pense. Mais en tout cas, on m'a dit que vous étiez en feu, puis ça paraît.
Ah oui!
Et oui, Éric, le Québec, bon, c'est la deuxième édition, en passant, de Beauce en rock qui est lancée, ou presque, là. Le Québec a été, vous savez, une pépinière de groupes rock et particulièrement de groupes rock francophones depuis les années 80, époque où le rock atteignait quand même son apogée. Le rock est toujours très, très présent quand même au Québec, n'est-ce pas?
Oh oui, absolument, absolument. Puis nous, on voulait refaire quand même, faire la continuité du rock ici, puis d'encourager beaucoup les groupes québécois, là, rock. Comme tu l'as mentionné, c'est notre deuxième édition. Notre première a été beaucoup plus difficile avec la pandémie.
Bien sûr.
C'est qu'on s'est ramassé avec un plan F, mettons. Par contre, c'est notre première édition qui dure 3 jours, là. Donc, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai travaillé 25 ans pour Woodstock en Beauce.
Ben, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu quand même, avant ça, Woodstock en Beauce, alors qu'il était un festival qui se tenait chaque année, qui a été très, très populaire quand même.
Oui, absolument. Oui, absolument. Il y a eu très, très grosses années, puis tout ça. Puis, moi et mes chums, étant donné que mes chums, c'était plus des festivaliers, mettons, ils voulaient faire revivre le Woodstock. Donc, on avait quand même tout fait pour essayer de relancer ça, mais ce fut un échec là, pour plusieurs raisons X. Et puis, on a décidé de faire le Beauce Rock. Donc, on est à nouveau dans une terre en Beauce et qu'on va pouvoir accueillir tous les festivals.
Ben, c'est merveilleux. Dites donc...
Oui,
c'est ça. Dis donc, non, c'est parce que la ligne a été mauvaise une fraction de seconde. Alors voilà, non, pas de problème. Et je pensais que vous aviez terminé. Mais en fait, le rock, là, bon, je disais que ça avait toujours été présent au Québec et on peut dire que c'est presque ça qui unit le plus les Québécois à travers les générations aussi, hein. Parce que, en fait, ce sont les jeunes des années 80 qui ont vieilli, qui sont encore aujourd'hui les plus grands adeptes de rock.
Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis ça reste que Offenbach a fait une grande ligne. On a eu quand même plusieurs groupes rock, même Plume la Traverse frôlait ça. Et puis, évidemment, là, il est né les bandes aussi, justement, des années 85, comme Groovy Advark, Anonymous, qui sont toujours vivants aujourd'hui.
C'est
là,
ça.
Dans le sens que, vivants sur la scène, là, c'est ça que j'explique. Là.
Ben oui, les Pistolets Roses en sont un exemple aussi.
Puis, ah ben oui, j'ai été quand même 5 ans en tournée, moi, avec ces gars-là, à travers toute la province, dans leur moment de gloire, que je pourrais dire, là. Avec, c'est devenu des grands amis. Je veux pas, avec mon habileté un petit peu avec la scène, comme je peux dire, j'ai eu plusieurs amis à travers cette vibe-là de rock. Donc, c'est toutes mes amis que je fais jouer. Là,
c'est ça, exactement. Vous êtes une bande d'amis. Diriez-vous que la musique que nous entendons aujourd'hui, celle qui attire l'attention ces dernières années, n'a rien à envier à ses prédécesseurs au plan de l'inspiration et de l'énergie?
Alors, c'est sûr, absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Ouais, c'est ça. Puis effectivement, c'est vraiment comme je le disais, toute une génération finalement qui est unie derrière le rock. On va parler bien sûr, on va se lancer dans la programmation parce que il y en a quand même pas mal là, du monde là. Finalement, vous avez travaillé très fort. Alors, on va commencer justement à parler un petit peu d'abord de bon à l'ouverture là. Bon, ça va se passer comment?
Oui, alors nous, ça commence le jeudi.
C'est ça.
Et puis, c'est une espèce de 5 à 11. Nous, en Beauce, les 5 à 7, c'est trop court. On fait ça gratuit. Donc, pour nos festivaliers, nos commanditaires, les gens qui veulent venir voir nos infrastructures. Et puis, on est en mode plus chansonnier, qui va devenir un trio vers la fin de la soirée. Donc, c'est plus relax un petit peu avant de tomber en mode vraiment rock le lendemain. Là.
OK, alors c'est le lendemain, vraiment, là, on y va un peu plus fort.
Oui, absolument.
Bon, alors d'abord, on va quand même lancer, vous savez, le rock, hein, il n'y a pas de rock sans bière. C'est sûr que le lendemain, là, on va être sur un lendemain de veille peut-être aussi. On va avoir besoin de se réveiller.
Ça se peut. On va avoir de l'alcool en masse, ça, c'est sûr. Ça fait partie un petit peu aussi
de la culture.
Oui, puis la culture, puis du revenu du festival aussi, on va se le dire, là, ça permet aussi d'engendrer un petit peu des finances pour payer toutes les infrastructures puis les artistes. Voilà.
Ouais, puis c'est ça, on s'est trouvé d'ailleurs un bon truc là pour que tout le monde soit en sécurité également, parce que là, on couche sur place, pourquoi pas?
Oui. Absolument, exactement. Bon, évidemment, nous, toutes la sécurité policière, ambulance, tout est avisé. On a quand même un raccompagnement, un hôtel proche aussi, mais c'est beaucoup plus simple de coucher sur place. On a un camping au coût de 10 $. Les gens peuvent arriver avec leur roulotte, leur tente, tout ce qu'ils veulent. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire, effectivement. Là.
Effectivement. D'ailleurs, c'était une demande des gens aussi qui préféraient cette solution-là. Et puis, vous l'avez mise en place, tout ça. Alors, rapidement, là, il faut absolument que vous nous parliez des groupes qui seront présents.
Oui, absolument. Donc, vendredi, c'est un petit duo de la Beauce qui s'appelle Luc et Marjo. Ils sont très, très sympathiques.
Absolument, c'est vrai.
Oui, c'est un petit duo qui tu sais, ils font des covers, évidemment, mais toutes des petites tunes un petit peu de party. Donc, ils vont jouer sur une petite scène extérieure parce qu'on a une aire de jeu. C'est un de mes comparses qui a eu l'idée de tout ça. Donc, il y a des espèces de jeux de poche, de tombe à l'eau, aussi le molki qu'on peut appeler. Tu sais, on a plein de petits jeux. Donc, il y a une aire de jeu que les gens peuvent s'amuser puis regarder le petit spectacle dehors.
Bon, alors c'est ça. Luc et Marie-Jo, c'est vrai, ce sont un petit duo tout à fait déjanté. À part ça, alors on continue.
Oui, alors Steph Saint-Pierre, qui est un chansonnier très connu ici, qui opère toute seule, mais avec son kit de pédale, qui est capable de faire des loops qu'on appelle. Donc, il fait des trames sonores, il fait toutes sortes de covers de rock'n'roll, là, des hits les plus connus qu'on connaît très bien. Stéphane est bien connu en Beauce. Il met tout le temps le party, comme on peut dire.
C'est ça. Donc, toujours des artistes, beaucoup d'artistes de chez nous, bien sûr. Mononcle Serge, oui, qui sera là aussi.
Oh que oui, mon oncle Serge, juste après Irish Moutarde, qui est un band qui va faire un petit peu la culture un petit peu irlandaise, qui va swinguer avec un accordéon, puis ça fait ça.
Ah oui, ils sont excellents.
On commence à lever le party, puis mon oncle Serge, qui a très hâte de venir jouer en Beauce, qui a partagé une vidéo très hilarante quand il était à Paris, parce que mon oncle Serge était en tournée en Europe récemment. Il est revenu au Québec. Donc, ça va nous faire plaisir d'accueillir les Cross Mono. Qui,
oui,
c'est très, très drôle.
C'est très drôle. Et puis, enfin, il y en a plein comme ça. Il y a des hommages à Metallica. Hommage aussi à Bob Bissonnette. On sait qu'il est décédé, malheureusement, en 2016.
Oui, ben,
et
exactement.
Puis, on va lui rendre hommage. Alors, vraiment, on parlait des Pistolets Roses. Il y en a bien d'autres. En tout cas, est-ce qu'il y en a qu'il ne faut pas oublier, là?
Oui, exactement. Notre artiste principal qui est Groovy Advark, là, on en a parlé un petit peu au début, là, qui brûle les planches du rock du Québec depuis vraiment, je crois que c'est 1985, si ma mémoire est bonne, mais là, j'ai peut-être pas l'info ici, là, mais ça
oui, ça fait longtemps.
Roule,
ouais. Puis il y a le fameux Gaspésien aussi. Le Gaspésien, oui, comme on le dit, Pierre-Luc, oui, Dumaresque.
C'est ça, exactement, avec les moineaux. Ça, c'est jeudi, gratuit. Il est en feu.
En tout cas, écoutez, ça sera un bel événement quand même, parce que c'est festif, le rock, et puis c'est comme ça. Puis il y a de la bière, puis on couche sur place, puis c'est le party. En tout cas, c'est comme ça. Alors, merci bien d'être venu nous en parler. Un plaisir.
Super, merci beaucoup.
Et puis, bon festival Beauce en rock.
Ah oui, ça va être super, vraiment. Là, on est sur le terrain présentement, on travaille tous fort.
Puis il va faire beau. Bon, ben merveilleux.
Oui.
À la prochaine. Bye-bye.
À la prochaine. Bye-bye.
Quelqu'un m'entendra-t-il si je ne dis plus un mot? Quelqu'un me verra-t-il si je disparaissais? Je sais, j'aurais pu être un papillon. m'attendra-t-il pour que ma chrysalide se libère de ses fils et se lance dans le vide. Je sais, j'aurais pu être un papillon.
Papillon, c'était Lara Fabian qui chantait. Il s'agit de la chanson-titre de son plus récent album qui a été réédité exclusivement en version numérique et qui a été lancé simultanément au Québec et en France en 2020. Parlant de papillons, à défaut de pouvoir disposer d'un jardin attrayant pour accueillir nous-mêmes les papillons, on sait qu'ils auront dorénavant leur espace à longueur d'année au Nouvel Insectarium de Montréal. Et oui, justement, le début de l'été coïncide avec son inauguration et aussi l'inauguration du Jardin des pollinisateurs de l'Insectarium et espace pour la vie. On en parle avec Lucille Pic, bonjour.
Enchantée, comment allez-vous?
Ah, ben je suis en forme, ça va bien, oui. Et ben, écoutez, après le Biodôme en 2020, c'était au tour de l'Insectarium de se dévoiler au printemps dernier au terme d'un projet de rénovation, du projet de rénovation Métamorphose. Et vraiment, c'en est toute une.
Absolument, c'est un magnifique espace que nous avons maintenant.
Eh oui, ça a duré quand même un peu plus de temps que prévu, ces rénovations. Ça devait durer 2 ans, mais avec les impacts liés à la pandémie, effectivement, ça a duré un peu plus longtemps. Mais puis ça, c'est un projet issu d'un concours international d'architecture quand même.
Tout à fait, mais au final, on a réussi à relever le défi et maintenant, on a un super beau musée avec une muséologie qui parle à travers les sens des visiteurs. Ils vont rencontrer des insectes phénoménaux, voir à quel point ils sont bien adaptés et on peut les accueillir dès maintenant avec notre nouveau jardin des pollinisateurs.
C'est ça, on les aime déjà, ces insectes, même si d'habitude ça nous rebute un peu, mais chez vous, je pense que ça va être beaucoup plus agréable de les observer. En fait, l'Insectarium, le nouveau Insectarium, c'est le premier musée en Amérique du Nord qui permet vraiment l'observation d'autant d'espèces d'insectes vivants et naturalisés aussi.
Absolument. Donc, dès l'entrée sur le site de l'Insectarium, les gens ils commencent par être en plein dans le jardin des pollinisateurs, qui est un très bel espace où il fait bon vivre. Et justement, c'est le premier endroit où avoir un contact positif et un regard particulier sur ces petits insectes qu'on va appeler les pollinisateurs qui vont visiter ce petit jardin-là. Donc, en compagnie des animateurs et des animatrices, on va en apprendre un peu plus sur qui ils sont, leur importance dans la nature, mais aussi pour nous. Et ça donne le goût, après, de visiter l'insectarium et après, plus tard, de prendre soin des insectes.
Effectivement, parce que le but ultime, finalement, c'est de rapprocher les gens de la nature.
Absolument. Le souhait le plus cher qu'on a à l'insectarium, c'est de transformer la relation que les gens ont avec les insectes pour apprendre à finalement se rendre compte qu'ils sont vraiment très importants à l'échelle planétaire pour nous. Et donc, en apprenant un petit peu plus sur eux, ben, peut-être qu'on va vouloir les protéger et au final aider la nature.
Ben oui, parce que c'est important pour la biodiversité. Et en fait, c'est vous dites bon que vous voulez que en fait que la société. Vous parlez de société entomophile.
Absolument. Donc c'est une société où on viserait à vivre en harmonie avec les insectes parce qu'ils nous rendent d'énormes services qu'on ignore parfois. Mais justement, en visitant l'insectarium. Et en parlant un peu avec les animateurs, en observant, en vivant cette expérience-là, on se rend compte que les insectes sont une partie intégrante de la nature, que ça vaut la peine de les connaître pour un milliard de raisons, dont aussi parce qu'ils sont mignons.
Mais oui, d'une certaine façon, c'est ça, quand on les apprivoise, quand on sait comment les regarder, puis quand on sait à quel point ils peuvent rendre des services importants à la nature, hein, sans eux, là, il y aurait un problème, effectivement. Les pollinisateurs, là, ne sont pas uniquement, en passant, les abeilles, les bourdons, on parle quand même de 200 000 espèces d'insectes.
On a en effet énormément une grande diversité chez les pollinisateurs. Donc, en se promenant dans le jardin des pollinisateurs, on pourrait apercevoir toutes sortes de pollinisateurs indigènes, dont différentes petites abeilles, mais aussi des mouches, des coléoptères. On peut voir des papillons. Donc, il faut profiter de la belle saison pour venir observer ces petits pollinisateurs, parce qu'après, en hiver, bah, eux, ils sont pas là. Donc, Le premier regard qu'on peut avoir sur cette diversité-là, c'est dès en rentrant sur le site de l'insectarium.
Et c'est ça. Et puis, d'abord, là, c'est accessible gratuitement hein, jusqu'au 3 juillet.
Oui, donc en fait, le jardin des pollinisateurs est dans la partie gratuite du site. Et en même temps, jusqu'au 3 juillet, on célèbre l'ouverture de l'insectarium avec des œuvres artistiques temporaires. Donc on va y voir quelques petites miniatures qui mettent en scène des insectes dans la vie quotidienne. C'est des petites scènes mignonnes et drôles. Et on voit aussi une fleur géante qui va nous amener à l'échelle des insectes. Donc c'est un petit quelque chose pour célébrer cette ouverture.
Il y a une façon aussi de présenter les insectes, en fait, qu'il faut prendre en compte. La présentation d'insectes prélevés en nature se fait uniquement s'il n'y a pas d'autre option. En fait, vous avez quand même une éthique à ce niveau-là.
Absolument. On a un conseil d'éthique très, très... où on prend le bien-être des insectes très au sérieux à n'importe quelle étape de leur vie ou à n'importe quel endroit dans le musée. Donc, c'est sûr que pour les collections d'insectes naturalisés, c'est beaucoup... ça a été beaucoup d'aller chercher dans des élevages. Donc, ça déjà, c'est un point extrêmement important. Mais aussi, la restauration de spécimens qu'on avait déjà quand c'était possible, ça aussi, ça a été fait. Ça a été un travail monumental aussi pour nos équipes. Et puis, du côté des collections vivantes, là aussi, c'est faire affaire avec des fermes d'élevage éthiques à travers le monde. Donc, on a des gens extrêmement compétents qui prennent le temps de bien chercher, de bien communiquer pour que tout se fasse dans les règles, pour que les insectes qui se retrouvent à l'insectarium soient le plus heureux possible, dans le meilleur état possible.
Effectivement. Donc, vous avez quand même une expertise à ce niveau-là. Et puis, le choix des fournisseurs, pour vous, c'est quand même très important. Et puis, bon, il y a d'autres événements qui vont avoir lieu au cours de l'été. Parlez-nous-en de ces autres projet.
Donc, à travers l'été, eh bien, on commence avec les petites miniatures, mais il y a aussi les activités à l'intérieur de l'atelier créatif, par exemple. Mm-hmm. Donc, en fin de parcours du musée, les gens qui voudraient pouvoir construire des œuvres inspirées de la nature et des insectes vont pouvoir le faire. Les plages horaires sont inscrites sur le site d'Espace pour la vie. Et il y a aussi une adorable activité où on fait une bande dessinée géante et bienveillante pour construire une histoire autour des insectes et puis leur venir en aide. Donc, c'est très mignon comme activité. Je pense que les familles aiment beaucoup ça jusqu'à maintenant.
Effectivement. Donc, activité artistique, gourmande aussi.
Du côté gourmand, ça, moi, je ne suis pas extrêmement renseignée là-dessus, mais peut-être si vous... si vous consultez l'équipe des communications, ils seront un petit peu plus que moi. Ouais. Moi, je suis plus du côté éducation, donc c'est enfin, plus mon domaine.
Qui n'a pas essayé de manger des insectes? Enfin, l'insectarium nous offrait parfois quand même un petit buffet d'insectes par moment, selon les saisons. Mais en fait, bon, alors on a parlé du jardin des pollinisateurs. Parlez-moi aussi un peu de l'architecture, parce que vraiment, ça a été fait pour qu'on ait aussi toute une vue sur la nature, qu'on en soit
absolument
vraiment imprégné.
Ah, oh, absolument. Le bâtiment est fait tout en transparence. Donc, quand on est rendu dans la serre qu'on appelle le grand vivarium, ici, on regarde tout autour, on voit à travers les vitres les arbres, on voit le stade olympique, on voit les nuages qui passent au-dessus, le soleil. Donc ça fait 2 mois qu'on est ouvert, mais j'ai hâte de voir à travers l'année à quel point le paysage de la nature va changer et comment ça va être contrasté avec les belles plantes qu'il y a dans la serre, donc le côté tropical de la serre versus le climat canadien autour. Ça va être de toute beauté. Déjà que c'est beau, mais ça va être de toute beauté.
Ah, c'est merveilleux. Enfin, espace pour la vie, vous savez, bon, c'est ce complexe muséal là ça comprend bien sûr le biodôme, la biosphère, le jardin botanique, le planétarium et l'insectarium. Alors, vraiment, c'est une belle intégration de tout cela. Vraiment, on a vraiment un joyau ici même à Montréal. Montréal qui est une ville amie des abeilles, c'est ce que je lisais.
Oui, Montréal est une ville amie des abeilles. Donc, pour se qualifier en tant que ville amie des abeilles, il y a plusieurs critères qui vont être déclinés si jamais vous êtes curieux sur le site de Bee City. Donc, c'est par exemple, pour en nommer juste quelques-uns, de construire des espaces avec des plantes à fleurs nectarifères. Donc, mm-hmm. C'est des plantes qui vont offrir du nectar et du pollen pour, oui, les abeilles, mais aussi les autres pollinisateurs qui vont s'en nourrir. Donc, en étant ville amie des abeilles, ça aide les pollinisateurs au sens plus large. C'est de créer des habitats ou de protéger des habitats de vie pour ces insectes.
Oui, très important.
Bien sûr, ça aide la biodiversité.
Très important. Merci beaucoup, Mme Pic, d'être venue nous en parler. Et on ira faire un tour, assurément, à l'insectarium. Eh bien, ça a été un plaisir.
Ça fait bien plaisir. Merci à vous.
Bonne journée. Au revoir.
Merci.
Vous écoutez Aime l'été.
Demain le soleil brillera pour tout le monde. J'ai envie de faire de cette terre l'Éden. Aussi vrai que notre terre est bien ronde. Ta main dans la mienne, je t'en changera le monde. Ensemble, tu sais qu'on est plus fort. Je t'aime plus fort, tu m'aimes plus fort. Prends-moi la main, petite sœur, petit frère. On ne connaît pas de frontières. Ensemble, tu sais qu'on est plus fort. On s'aime encore les grands, on
C'était la pièce Ensemble de Kids United, un groupe de musique pop français composé d'enfants et de jeunes adolescents, groupe qui avait été formé en 2015 dans le cadre d'une campagne de l'UNICEF France pour reprendre les plus belles chansons célébrant la paix et l'espoir. Et l'aventure s'est terminée l'an passé après avoir lancé Kids United. En fait, l'an passé, je pense que oui, c'est ça, parce qu'ils avaient lancé Kids United Nouvelle Génération en 2018. Voilà, donc une pièce qui, en fait, introduit bien mon prochain sujet. Ensemble, on est les plus forts. Oui, c'est ce que dirait Adam Pendleton, sans doute, cet artiste que l'on présente en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et pour nous en parler, on accueille Mary Daly Desmarais, conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal et commissaire de l'exposition Adam Pendleton, Ce qu'on a fait ensemble. Bonjour.
Bonjour.
Bon, alors, ça va bien? Vous allez bien aujourd'hui? Il fait beau.
Oui, ça va très bien. Merci. Merci pour l'invitation d'être avec vous.
Ah, ben écoutez, Adam Pendleton, un des artistes les plus influents de sa génération. Cet Américain de 38 ans qui présente sa première exposition solo au Canada. Hein?
Oui, absolument. C'est la première fois qu'il a une exposition muséale ici au Canada, et pour cette exposition, il nous présente 4 tableaux monumentaux de sa série Untitled We Are Not, c'est-à-dire mm-hmm. son titre Nous ne sommes pas, mm-hmm. ainsi que des dessins inédits et un portrait vidéo de la danseuse, chorégraphe et cinéaste d'avant-garde Yvonne Rainer, mm-hmm. Qui a été tournée dans un café-restaurant de New York. Et c'est une vidéo qui est très, très émouvante où on voit l'artiste en conversation. En fait, c'est deux artistes qui sont en conversation et qui ont un échange qui est à la fois un échange d'idées, mais aussi un échange de contact physique. Yvonne partage avec Adam un geste d'une danse qu'elle a fait. Et c'est un portrait très intime. Oui, dans le titre, ça dit Yvonne Rainer, mais c'est aussi un portrait d'Adam et qui montre justement, qui nous force à se questionner sur justement qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble.
C'est ça, exactement. Et puis, on parle aussi, on la voit là-dedans aussi interpréter son fameux trio, cette chorégraphie qu'elle avait créée en 1966. Bon, effectivement, Madame Desmarais, donc, c'est vous qui avez personnellement, je pense, invité Adam Pendleton, finalement, à Montréal. Hein, vous le connaissiez quand même. Il est quand même quelqu'un de très, très connu. On se l'arrache en ce moment, collectionneur, galériste.
Oui.
Et puis, c'est ça, il est vraiment, il a, bon, et la critique est dithyrambique à son égard, finalement.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En quoi il est si important présentement?
Adam a une pratique qui est, excusez-moi, à la fois extrêmement, comment dit-on, Adam a une pratique qui est extrêmement forte et au niveau formel et au niveau conceptuel. Mm-hmm. C'est une pratique qui est engagée avec des... Et c'est une pratique, je dirais, beaucoup plus que ce que je viens de dire. C'est une pratique qui est très pertinente et qui parle à notre moment actuel très, très fortement. C'est une pratique qui touche à des questions sociales, des questions sur, par exemple, la relation entre l'individu et la collective. Il y a des questions sur des enjeux raciaux aussi qui absolument. Se trouvent dans sa pratique. Mais ce n'est pas juste ça. Et ça, c'est très important pour lui parce que c'est quelqu'un qui aussi pousse des limites de qu'est-ce que la peinture pourrait être. On voit dans les énormes tableaux qui sont en salle au musée en ce moment, il y a un aspect presque... performatif dans ces tableaux qui sont énormes, qui nous entourent, qui nous immersent. Et non seulement est-ce question ce qui pose les limites de la peinture, mais aussi de dessin. J'ai quelque chose dans la gorge.
Non, ça va. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est un amalgame aussi de techniques, hein. Peinture, sérigraphie, collage, ça, dessin, du lettrage aussi, hein. Il aime beaucoup
exactement.
Ça. Ouais.
Exactement. On trouve dans son travail une invitation à la lecture. Il y a des mots qui s'y trouvent, évidemment. Mais il y a aussi un refus d'une signification, d'une seule signification. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de significations qu'on pourrait trouver dans son travail. C'est un travail qui nous pose des questions, qui nous invite à réfléchir et qui nous invite à interagir.
Ouais.
Et c'est pour ça que c'est si pertinent. C'est aussi très émouvant, dépendamment je dirais que tout le travail d'Adam est émouvant, mais je trouve surtout dans ces films, il y a une sorte de poésie et intimité qu'on trouve dans son approche à ces sujets qui est vraiment unique. Donc tous ces éléments, c'est la performance, c'est des fois la danse, l'écriture, le questionnement sur des sujets, des enjeux pertinents pour nous tous, c'est ça qui fait en sorte que Adam est si important pour notre moment.
Exact. Et puis bon, on parle d'un artiste philosophe. On sait, bon, les artistes témoignent mieux que bien d'autres, enfin que quiconque, de l'époque dans laquelle aussi on vit, et lui s'inscrit vraiment là-dedans. Et je pense que le « nous » d'ailleurs est très important pour lui. C'est vraiment ça. Donc, ça se reflète beaucoup dans cette exposition. C'est la thématique même de cette exposition.
Oui, absolument. Et je pense que vous avez touché sur quelque chose qui est très important que je n'ai pas mentionné, c'est la philosophie, la profondeur du pensée qu'on trouve dans le travail d'Adam. C'est quelqu'un qui lit énormément de toutes sortes de choses, des textes de l'histoire de l'art, des textes historiques, des récits des artistes, mais aussi des activistes comme Malcolm X, Stokely Carmichael, W.E.B. Du Bois, mais aussi des poètes, des danseurs. Donc, il y a cette pluralité dans sa vision qui est très importante aussi. Je vous ai coupé.
Non, ça va, j'allais dire. Bon, alors, c'est toute cette démarche à la fois artistique, philosophique, et puis, il a pris quand même position pour des enjeux sociaux très importants. Bon, on sait qu'il a adressé des lettres aux médias sur le mouvement Black Lives Matter aussi, entre autres.
Absolument.
Ouais.
Absolument. Et ça, évidemment, ça se trouve dans sa pratique, mais pour lui, c'est important que son engagement social, sociétal, ne soit pas le seul discours autour de son œuvre. Donc, parce que il veut pas que cet aspect de son discours qui est là, qui est vrai, qui se trouve dans le travail, prime sur les autres éléments qui sont très ancrés aussi dans l'histoire de l'art, d'un questionnement des théories d'avant-garde. Mais c'est justement pour retourner à votre point sur la collectivité, le « nous ».
Le fameux « nous », exactement.
Fameux « nous », c'est que tous ces éléments travaillent ensemble dans son travail.
Dans son travail. Bon, écoutez, alors on va devoir mettre fin, bien sûr, à notre conversation et on pourrait continuer comme ça très longtemps. Merci bien et je voulais juste le citer. Il dit « Nous sommes des individus, mais aussi les parties prenantes d'un collectif. En fait, nous existions tous dans un nous qui nous inclut tous. Personne n'est jamais exclu du nous. C'est la perception de l'exclusion du nous qui est la violence, qui est le problème. » Enfin, je trouvais ça très beau de citer ça. Enfin, écoutez, moi, j'ai manqué un petit peu l'exposition parce qu'il y avait eu un dégât d'eau, malheureusement, au musée. Mais bon, alors, j'espère que c'est réglé.
Oui, bon,
c'est merveilleux.
J'espère que vous allez revenir. Il y a que deux semaines qui restent et j'espère que vous allez avoir la chance de voir les autres éléments qui incluent le film. Comme vous avez dit, il y avait un dégât d'eau qu'on est en train de régler en ce moment.
C'est merveilleux. Alors, merci bien, Madame Desmarais, et puis on ira voir cette exposition. Ça se termine le 10 juillet.
Bon, mais merci à vous et bonne journée.
Au plaisir. Eh bien, pour reprendre les paroles de la chanson, ben, ça va comme suit. La radio résonne au point du jour, les mêmes vieux airs de country encore et encore. Des bas, des hauts, se livraient sous l'ennui. Ton cœur dans la grande roue. Et oui, ton âme comme un carrousel en hiver. Alors, c'était ma transition pour présenter, et oui, mes prochains invités. Mais en fait, je veux juste revenir là-dessus, c'était le titre de cette pièce Grande Roue, là, de la chanteuse Hera Ménard, tirée de l'album Fleur. Deuxième album de l'auteur-compositrice-interprète de Québec, sorti en octobre 2021. Et c'est un album qui traduit bien à travers les textes, en tout cas les enjeux sociaux qui l'ont inspiré au cours des dernières années, notamment le mouvement Black Lives Matter, la situation aussi des Autochtones et les enjeux environnementaux. Hera Ménard qui s'inspire de la nature et des grands espaces qui ont bercé sa jeunesse. Alors voilà, elle dédie naturellement son art à la musique folk et country. À vous de découvrir. Et parlant de Grande Roue, oui, depuis quelques années, on a la nôtre dans le Vieux-Port de Montréal bien en vue. Alors je rejoins Catherine Youssef et Stella Paulin, une qui est coordonnatrice marketing et réseaux sociaux de la Grande Roue. Et ça, c'est pour Catherine et Stella, représentante au développement des affaires de la Grande Roue. Bonjour.
Bonjour.
Ça fait une longue introduction. Oui. Alors, pour parler de cette grande roue, quand même, qui est là depuis, dans notre paysage montréalais, depuis un petit moment déjà, cette grande roue, quand même, qui a 60 mètres de hauteur et puis, bon, qui est là saison après saison. Et c'est quand même, depuis quand c'est déjà, depuis quelle année déjà on a notre grande roue?
C'est en 2017.
En 2017, ouais. Et puis c'est ça. En fait, ça reste encore. Est-ce que ça reste encore la plus grande roue d'observation au Canada?
Oui.
Ouais, c'est ça. Bon, c'était les grandes villes. Il y a bien des grandes villes qui ont leur grande roue. On pense à Paris, à Londres. Et ben, on a la nôtre. Et puis bon, je pense qu'on n'a rien à envier aux autres grandes villes finalement. Parlez-nous un petit peu de cette grande roue, de comment ça se passe d'abord. Comment ça s'est passé dans les dernières années? Bon, vous étiez quand même en opération en 2021.
Oui, on était en opération en 21, c'était plus tranquille, je peux vous dire. Mais ça a quand même été, je pense, une source pour les gens qui pouvaient sortir puis faire une activité. Donc, c'était agréable pour des gens d'être capables de profiter d'autres choses et de profiter aussi du Vieux-Port. Ça leur donnait la chance de venir visiter leur ville et de faire autre chose.
Ouais, c'est ça. Et puis, bon, alors comment ça s'est fait là? Comment ça s'est fait un petit peu le tout ce parcours là? Enfin, comme on dit, de l'idée à la réalité là.
Honnêtement, j'étais pas présente à cette période-là. J'étais pas ici à cette période-là, donc je pourrais pas vous donner cette information-là. Désolée.
Ben c'est ça, on va entrer quand même. Là, vous avez différents forfaits. Parlez-moi un petit peu d'abord, on a parlé de 60 mètres de hauteur. Je pense qu'on voit de loin hein, quand on est au sommet.
Catherine, vas-y.
Oui, on peut voir jusqu'à 28 km de notre haut, puis 360 panorama. Donc, on peut voir quand même toute la ville.
Alors, et puis, 60 mètres de hauteur, ça, c'est l'équivalent de, je pense, 20 étages, hein, quand même.
20 étages, oui.
Ah là là. Et puis là, c'est parce que les feux d'artifice ont recommencé aussi à Montréal après 2 ans d'absence. Alors, comment ça se passe, les soirs de feux d'artifice?
Bien, samedi, c'était la première, puis c'était extrêmement occupé. Est-ce que c'était juste à cause des feux d'artifice ou on est extrêmement occupé aussi des fins de semaine, donc... Mais il y a des gens qui venaient, qui allaient voir les feux, puis après ça, ils revenaient pour faire leur vie. Donc, c'est quelque chose que les gens peuvent voir également de la roue, mais c'est difficile à dire où ils vont être quand les feux vont dérouler.
Ouais, c'est ça. Combien ça prend de temps quand on arrive, finalement, on prend notre billet sur place. Alors, pour arriver là, enfin, être en mouvement de façon continue?
Ça prend 20 minutes. Okay. Pour embarquer, disons, vous pouvez acheter votre billet en ligne ou sur place. Et dans la roue, ça vous prend 20 minutes. C'est environ 3 tours.
C'est ça, pour faire le tour. À partir du moment là où on est, où tout le monde est sur son siège.
Et dans la roue. Oui, exactement. Oui.
D'accord. En fait, ce sont des cabines, hein, bon, climatisées en été.
Et c'est tempéré.
Et tempéré en hiver, c'est ça. Donc, on est très confortable. On ne risque pas d'avoir un coup de chaleur.
Non.
Et c'est ça. Et puis, bon, alors parlez-moi des forfaits. Bon, parce qu'on peut prendre en fait un forfait cabine privée. Il y a des forfaits aussi cabine VIP. Expliquez-moi la différence.
Le forfait cabine VIP, c'est de 1 à 4 personnes. Le maximum, ça peut être 4 personnes. Et les gens peuvent acheter s'ils sont 2 ou s'ils sont 3 ou s'ils sont 4. La cabine VIP, en ce moment, les gens peuvent acheter et réserver à l'avance, ce qui n'est pas le cas pour les autres cabines. La cabine privée, vous pouvez être jusqu'à 8 personnes dans la cabine privée et il n'y a pas d'heure de réservation, vous venez à votre convenance. Et après, il y a les cabines régulières. Ben, je dirais que la même chose qu'une cabine privée, si vous voulez, c'est jusqu'à la cabine privée, vous pouvez être jusqu'à 8 personnes dans la cabine.
Alors évidemment, c'est une belle idée pour toutes sortes d'événements. Je ne sais pas, moi je pense à demande en mariage, je ne sais pas, l'après-bal, je ne sais pas, il peut y avoir toutes sortes de choses. Avez-vous eu des anecdotes à nous conter là-dessus?
Ben, on a eu des balles et on a eu des demandes en mariage aussi, donc c'est juste...
je me doutais bien.
Oui, tout s'est passé. Je pense que c'était toi, Catherine, qui avait fait une demande en mariage.
Non.
OK, je me trompe. Et on a également ce qu'on appelle le gender reveal, qui veut dire qu'on peut découvrir le sexe du bébé on a un forfait pour qu'il puisse dévoiler le sexe du bébé.
Ah bon?
Avec les lumières de la roue.
OK. Et puis, évidemment, c'est ça, vous me parlez de lumière, ben là aussi, on a une vue imprenable sur le pont Jacques-Cartier qui est illuminé maintenant, alors depuis quelques années. Alors ça, c'est merveilleux.
Puis on fait aussi plein d'événements, aussi, d'organismes à but non lucratif, qui ça peut être pour le cancer du sang, différentes organisations qui veulent faire illuminer la roue le jour de... ça peut être là.
Ah oui, je comprends.
21 ans ou quelque chose du genre. Donc, on va illuminer la roue, la couleur de leur organisation.
Ah oui, bon, ben ça, c'est bien aussi, un petit peu comme on le fait, là, pour d'autres attractions ou monuments de la ville de Montréal, bien entendu. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous aviez illuminé la grande roue aux couleurs de l'Ukraine, par hasard?
Ah oui!
Vous l'avez fait, hein, ça me semble bien. Oui.
Oui, on l'a fait plusieurs plusieurs semaines. Jusqu'à temps qu'on a eu une autre demande qui était, je ne me souviens plus de l'organisation, là, mais qui demandait de faire illuminer la roue.
Ah, bon, ben écoutez, alors la Grande Roue, vraiment, ça demeure une attraction touristique indéniable et puis pour tout le monde, pour les gens qui veulent voir le vieux Montréal, Montréal sous un autre angle, finalement.
Exact. Il y a également une terrasse, donc au point de vue corporatif aussi.
Oui.
C'est pas juste touristique.
Déguster, boire, et puis c'est ça, donc c'est complet, c'est une belle aventure complète. Eh bien, merci d'être venu nous en parler,
merci
et puis on sera au rendez-vous cet
merci
été encore pour la Grande Roue. Au revoir, passez une bonne journée.
Merci.
Eh bien voilà, c'est déjà tout pour cette deuxième émission de M l'été. Alors merci à nos invités, merci à nos recherchistes et puis on sera là demain, même heure, midi. Alors au revoir.